Cela est si vrai que l'on publie souvent le Nouveau Testament à part, et beaucoup de personnes ne reçoivent pas d'autres enseignements religieux que ceux renfermés dans ce volume. Il faut donc aller d'abord au centre, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Sa vie, son enseignement, son exemple, telle est l'essence même de la Bible. Nous pourrions même la définir ainsi, le livre qui nous parle de Jésus-Christ, dont il est l'âme même. Il faut donc lire en premier lieu la vie de Jésus. Et voilà pourquoi nous pensons que la lecture de la Bible ne devrait pas être commencée par le premier chapitre de la Genèse pour être continuée page après page. Les livres de la Bible n'ont pas tous la même importance. La lecture de l'Ancien Testament sera faite après celle du Nouveau. Quelques personnes penseront peut-être que l'Ancien Testament, étant une vaste préface au Nouveau, la préface doit être lue d'abord, avant la grâce, la loi, avant l'annonce du pardon, la connaissance du péché. N'est-ce pas l'expérience faite par saint Paul et exposée par lui dans l'Épître aux Romains ? Dieu a fait l'éducation du peuple d'Israël, cette éducation doit se faire en chacun de nous. Ce raisonnement est juste, mais nous ne devons le faire qu'après avoir pris connaissance du Nouveau Testament. Si on lit d'abord l'Ancien, sans guide et sans commentaire, on risque de ne pas comprendre plusieurs de ses enseignements. Nous ne faisons exception que pour les psaumes, recueil de cantiques dont la valeur religieuse est très grande et n'est pas limitée aux temps anciens d'où ils ont été écrits. Ils expriment des sentiments éternels, l'humiliation, le repentir, la reconnaissance, la foi, la confiance inaltérable en Dieu. Ils sont et resteront toujours le manuel de la piété intime. À côté des psaumes et sur le même rang, on peut placer d'admirables pages des prophètes. Réformateurs, moraux et religieux, prédicateurs de la justice, ils ont une importance capitale dans l'histoire des révélations de Dieu. Les livres historiques et les parties législatives des premiers écrits de la Bible sont à réserver, sauf le Décalogue, qui est le plus admirable code que nous ait légué l'Antiquité. Quand l'Ancien Testament sera connu, au moins dans ses parties essentielles, on relira le Nouveau. Il deviendra plus clair encore et plus vivant qu'à la première lecture. Une lecture ainsi faite permet de comprendre ce progrès des révélations dont nous parlions tout à l'heure, et de saluer en Jésus-Christ une personne, dernier venu d'une suite de personnes, initiateur d'un nouveau mouvement de personnes. Il faut donc d'abord, messieurs, se faire, par la lecture de l'Évangile, une idée de Jésus. Étudiez sans vous lasser et sous tous ses aspects la personne de Jésus-Christ. Cherchez à comprendre son enseignement et à en saisir l'essentiel. Appliquez-vous à définir sa grandeur spirituelle et morale. En quoi nous ressemble-t-il? En quoi diffère-t-il de nous et nous écrase-t-il? En quoi a-t-il été de son temps et en quoi de tous les temps? Que nous apprend-il de Dieu et de nous-mêmes? Que réclame-t-il de nous? En quoi consiste le salut qu'il apporte? Qu'a-t-il pensé de sa personne, de son œuvre, de sa mort? Que nous révèle-t-il sur la vie, la souffrance, le sacrifice? Quels sont à ses yeux les destinées de l'humanité? Jésus nous est-il nécessaire et pourquoi? Mais il faut aller plus profond. Le Nouveau Testament est une collection de livres qui offre Jésus-Christ. Le lecteur de l'Évangile devient ainsi, mesdames et messieurs, contemporain de Jésus. L'humaniste Erasme le dit. Vous avez dans ses pages un portrait vivant de ce caractère sacro-saint. Vous y voyez Christ lui-même parler, agir, mourir et ressusciter. Il est tout entier là, présent devant vous, au point que vous ne seriez pas sûr de le mieux voir, si même vous pouviez le contempler de vos propres yeux.